Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, donc j'ai fait une petite inversion par rapport au programme. J'ai souhaité d'abord commencer par la réflexion théologique, donc par les théologiens. On a vu Karl Rahner, Balthasar et Ratzinger. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt du magistère dont il sera question. Alors depuis Vatican II, et avec Vatican II, faut-il dire, on peut relever 6 documents d'importance variée qui viennent du magistère ou qui sont liés au magistère. Alors dans l'ordre d'importance, il y a le Concile. Le Concile lui-même, l'encyclique Spe Salvi de Benoît XVI en 2007. Puis on trouve le catéchisme de l'Église catholique, la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et puis 2 documents de la Commission théologique internationale. Donc dans ces 2 documents, on est dans l'ordre d'une réflexion théologique, certes pas une commission instaurée par le pape, mais c'est la réflexion théologique qui a une certaine importance, mais ça n'a pas du tout la valeur d'une encyclique. Il faut bien distinguer les niveaux d'importance d'un écrit, sous peine de se tromper. Alors, réflexion peut-être générale, ce qu'on voit dans le magistère, c'est qu'on commence à avoir des réflexions qui sont assez charpentées. Hein. Mis à part Benitus Deus, on avait parfois des petits bribes là, et là on commence à avoir des réflexions qui sont assez organisées, assez argumentées. Je commence avec le Concile Vatican II. Il marque un tournant dans la réflexion eschatologique. Il a été préparé par 3 renouveaux qui sont classiques dans la théologie aujourd'hui. Un renouveau biblique, patristique et liturgique. Et donc, préparé par tout cela, pas seulement par cela, mais beaucoup par cela, le Concile Vatican II va remettre sur le devant de la scène le retour du Christ et l'attente des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. L'essentiel se trouve dans la constitution Lumen Gentium, consacrée à l'Église, et particulièrement dans le chapitre 7, qui porte le titre suivant, le caractère eschatologique de l'Église en pèlerinage et son union avec l'Église du ciel. Vous voyez déjà, il y a plusieurs éléments rien que dans ce titre. L'Église ici-bas, en pèlerinage, donc qui va vers, et elle est déjà en union avec l'Église du ciel. Alors, pour bien lire le Concile, il faut vraiment le lire, évidemment, dans le sens de ce qui a été dit précédemment. Le Concile n'entend pas dire autre chose, mais le dire pour aujourd'hui avec les apports d'aujourd'hui. Donc je vais surtout parler de la Constitution Lumen Gentium. D'emblée, le regard est tourné vers la gloire céleste de l'Église, celle qui doit encore venir. Le Concile dit qu'il attend la manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Seigneur. La venue du Seigneur dans sa majesté. Il attend l'heure où le Christ apparaîtra. Et cette heure, dit-il, est celle où toutes choses seront renouvelées, l'homme et tout l'univers, où seront réalisés les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où la justice habite. On qualifie ce ciel nouveau et cette terre nouvelle. Cette heure correspondra à la fin du monde. On ne dit pas comment est cette fin du monde. Elle sera celle où les hommes sortiront du tombeau, ceux qui ont fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui ont fait le mal pour une résurrection de condamnation. Adviendra donc, dit le Concile, la résurrection des morts, la destruction de la mort elle-même. Ce sera l'heure de la manifestation des fils de Dieu, et l'apparition de ces fils de Dieu avec le Christ dans la gloire. Vous voyez tout de suite, on a un regard qui est focalisé là. Et ce temps sera aussi celui où chacun paraîtra devant le Seigneur avec ce qu'il a fait et il recevra son salaire. Donc le concile réaffirme les vérités de la foi, il les reprend à son compte. Il parle de parousie du Christ, il n'utilise pas le terme de retour, et il souligne particulièrement donc la résurrection des morts et l'attente des cieux nouveaux de la terre nouvelle. C'est assez particulier puisque vous vous souvenez qu'on se focalisait surtout sur le temps intermédiaire. Dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, vous trouvez la chose suivante, vous l'avez sur vos feuilles. Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Régnera la justice, béatitude qui comblera et dépassera tous les désirs de paix qui sont dans notre cœur. Donc, c'est déjà présent. Alors, la mort vaincue, les fils de Dieu ressusciteront dans le Christ, et ce qui fut semé dans la faiblesse et la corruption revêtira l'incorruptibilité. Donc toutes ces affirmations sont reprises en les centrant sur le Christ, en lequel se trouve la perfection. Donc ici, la perspective est résolument christologique. Vous vous souvenez, hein, il y avait Karl Rahner, on avait bien vu cela. Il y avait Balthazar aussi. Cette perspective, c'est celle de l'accomplissement déjà réalisé en Jésus. Là, le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et anticipé dès maintenant. Et pourtant, il est encore en train de se réaliser. Alors, le Concile va parler aussi de la communion de tous les membres de l'Église. Il souligne qu'il y a un lien entre les vivants sur terre et ceux qui se purifient encore et ceux qui sont dans la gloire où il contemple, et il dit, je cite, « dans la pleine lumière, tel qu'il est, le Dieu en trois personnes. » Ici, on a en une petite phrase la vision de Dieu qui est la vision du Dieu trinitaire. Ce que le Concile met en évidence, c'est que tous communient de la même charité. On intègre la dimension de l'amour. Il y a un échange spirituel entre les uns et les autres. Les habitants du ciel intercèdent pour ceux de la terre, tandis que ceux de la terre offrent des suffrages pour les défunts. Alors, le Concile utilise le substantif ciel. On entend bien ici maintenant qu'il faut le comprendre dans un sens métaphorique. Mais il ne parle pas d'enfer. Il n'utilise pas le mot plutôt d'enfer ni de purgatoire, mais il en décrit la réalité évidemment. Le Concile exprime simplement que dans l'attente de la venue glorieuse du Seigneur, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage, d'autres ayant achevé leur vie se purifient encore, d'autres enfin sont dans la gloire. Il affirme qu'une communion de vie existe entre ceux qui sont déjà en possession de la gloire céleste ou en voie de purification après leur mort. Il y a une communion qui est déjà là. Dernier chapitre de la Constitution Lumen Gentium, qui est aussi important pour notre sujet, c'est celui qui concerne la Vierge Marie. On n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Pourtant, elle est importante. Le Concile, du coup, en vertu de la communion des saints, souligne le rôle maternel de Marie à l'égard de l'Église, son intercession, et puis elle rappelle qu'elle a été élevée corps et âme à la gloire du ciel, et qu'elle est la reine de l'univers. Donc en elle, il y a déjà la glorification corps et âme. Et donc par la Vierge Marie, et le Concile dit déjà ce qu'il est, il confirme ce qu'il a dit précédemment. Voilà pour le concile, on pourrait développer davantage, mais voilà. Donc vous voyez qu'on reprend sous un mode qui nous convient beaucoup mieux. Et le concile ne parle pas de feu. Il ne parle pas de conflagration, comme on a vu avec Bonaventure. Qu'on aurait pu voir avec saint Thomas d'Aquin aussi, d'ailleurs. Il y a une autre manière de dédier les choses. Alors, la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi touche quelques questions concernant l'eschatologie. Elle rappelle deux choses, enfin plusieurs choses, c'est que la recherche théologique ne peut qu'approfondir et développer les points de la foi. Et je vais souligner surtout deux points. L'un qui touche à l'imaginaire. Donc, on a été confronté à des images, et justement, une des questions au cours des siècles, c'est de savoir mais comment est-ce qu'on interprète ces images, hein, est-ce qu'il faut entendre, par exemple, le feu dans un sens corporel? Et l'autre, c'est le rapport entre cette vie-ci et la vie à venir. Alors, concernant l'imaginaire, la congrégation dit ceci. En ce qui concerne les conditions de l'homme après la mort, le danger des représentations imaginatives et arbitraires est particulièrement à redouter. Car leurs excès entrent pour une grande part dans la difficulté que rencontre souvent la foi chrétienne. Les images employées dans l'Écriture méritent cependant le respect. Il faut en saisir le sens profond en évitant le risque de trop les atténuer, ce qui équivaut souvent à vider de leur substance les réalités qu'elles désignent. Vous voyez, à la fois il ne faut pas rejeter les images, en même temps il faut être prudent dans l'usage qu'on en fait et la manière dont on les interprète. Et vous l'avez senti au cours des siècles, là, c'est justement ce avec quoi les croyants se sont battus, si vous voulez. Ils ont essayé de comprendre comment vraiment interpréter. Est-ce qu'il faut entendre ceci au sens propre, au sens métaphorique, voilà. Deuxième point, la lettre souligne la nécessité de reconnaître qu'il y a à la fois une continuité et une rupture radicale entre cette vie-ci et la vie présente. Et donc, il faut penser de manière analogique. Et c'est là toute la difficulté. Voilà ce que je soulignerai de la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Venons-en maintenant au catéchisme de l'Église catholique. Alors, le catéchisme est intéressant parce que le problème d'un catéchisme, c'est d'éviter les opinions théologiques. C'est vraiment de dire ce que l'Église croit vraiment et d'enlever ce qui est de l'ordre de l'opinion, de la recherche, le grand attonnement. On essaie de s'en tenir à ce qui est vraiment cru par tout le monde. Et donc, on y trouve ce qui est vraiment le bien commun de l'Église dans son aspect catholique, c'est-à-dire universel. Alors, le catéchisme est divisé en quatre grandes parties. Le premier qui retrace le contenu de la foi du credo. Et juste avant, on a une partie sur la transmission, la révélation. Deuxième partie, c'est les sacrements généraux, puis chacun des sept sacrements de manière individuelle. Troisième partie, c'est la vie dans le Christ. Comment est-ce qu'on répond à l'amour de Dieu donné dans l'histoire. Et puis, quatrième partie, l'union à Dieu, la prière, avec un commentaire du Notre Père. Ici, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est développé dans la première partie, donc le second chapitre, pourrait-on dire, de la première partie. Donc sur le credo, le commentaire du credo. Et traditionnellement, le credo est divisé en 12 articles. Une manière de le diviser, ici ils ont repris cette articulation. Et notre sujet, évidemment, va arriver dans certains de ces articles, à savoir le 7e, le 11e et le 12e. Alors, ça demanderait tout un cours d'analyser un peu comment le catéchisme rend compte des fins dernières. Je ne peux pas me le permettre maintenant. Donc, je vais relever quelques points seulement. Mais avant cela, ça vaut la peine de voir un petit peu comment le catéchisme articule sa pensée. Donc, l'article 7, c'est le numéro 668 à 686. Donc, cet article-là est intégré dans la partie qui concerne le Fils. Et il développe l'affirmation du credo la suivante. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Cet article 7 est divisé en deux. Premier, il reviendra dans la gloire. On affirme son retour. Et puis, pour juger les vivants et les morts. L'article 11, l'avant-dernier donc, explique la vérité. Je crois en la résurrection de la chair. Et là, de nouveau, c'est divisé en deux parties. Donc c'est le numéro 988 à 1019. Donc deux temps, parle de la résurrection du Christ et de la nôtre, d'une part, et puis mourir dans le Christ. L'article 12 commente la dernière affirmation du symbole des apôtres, je crois en la vie éternelle. Là, il y a six points. Le jugement particulier de le ciel. 3. Soulignez bien les mots, parce qu'ici les mots ont été châtiés. La purification finale ou purgatoire. 4. L'enfer. 5. Le jugement dernier. Et 6. L'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Donc, ce chapitre, cet article 12, son numéro 1020 à 1060. Et donc, les fins dernières terminent le credo, terminent le commentaire, et ils font partie de cette partie du credo attribuée à l'Esprit Saint. Donc, le regard se porte, et c'est la structure même du credo qui l'implique, que le catéchisme épouse, se porte immédiatement sur le jugement dernier et le retour du Christ, pour ensuite, à partir de l'article 11, suivre un parcours chronologique qui va de la résurrection du Christ jusqu'à l'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, sans télescoper la mort, le jugement particulier, donc l'état intermédiaire, qui précède la résurrection de la chair, et le jugement dernier. Alors, quelques remarques sur ce que dit le catéchisme. Quelques points, j'en ai neuf. Et je vais essayer je vais souligner ces points en voyant comment ils se situent par rapport aux autres catéchismes, c'est-à-dire le Concile de Trente et le catéchisme de Saint-Pie-X. Donc, comme les deux autres catéchismes, le dernier annonce l'avènement du Christ dans la gloire. Donc il le réaffirme fortement, tout en disant que le Christ règne maintenant déjà par l'Église. Et alors il y a un petit ajout, ce retour du Messie, est suspendu, je cite, à tout moment de l'histoire, à sa reconnaissance par tout Israël. Et là, tout d'un coup, on se rappelle l'Épître aux Romains, hein, chapitre 9, 10 et 11. Ça, c'était le numéro 674. Voilà pour le premier point. On lit la chose avec Israël. Deuxième chose, le catéchisme affirme, c'est peut-être plus original, parce que c'est moins dit, que l'Église doit passer par une épreuve ultime, qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Sera alors dévoilé le mystère de l'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse. Et le catéchisme explique au numéro 675, l'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire là, c'est intéressant parce qu'il y a une définition, celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Donc voilà l'essence de l'Antichrist. L'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu. Ainsi, et ça c'est le numéro 677, l'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas, c'est très important, par un triomphe historique de l'Église selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse. Donc, très intéressant pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En même temps, il ne faut pas non plus vouloir dire « ça y est hein ». Soyons prudents. Troisième point, le catéchisme parle du jugement dernier. Qu'est-ce que ce sera, ce jugement ? Ce sera la révélation de la conduite de chacun et du secret des cœurs. L'attitude par rapport au prochain, par rapport à l'amour de l'autre, révélera l'accueil ou le refus de la grâce et de l'amour divin. On constitue tout par l'amour ici. Quatrième point, le catéchisme professe la résurrection de la chair à la suite du Christ. Il dit, nous ressusciterons comme lui, avec lui, par lui. Et là, c'est une note que vous avez peut-être remarqué. Juste après, il souligne, c'est une différence par rapport aux deux autres catéchismes, l'importance de mourir dans le Christ, d'être identifié à lui jusque dans sa passion. Et donc, il va développer le sens de la mort chrétienne. Alors, comme les deux autres catéchismes, cinquième point, il est question d'un jugement particulier, d'un jugement dernier. On ne trouvait pas l'expression « jugement particulier » dans les autres catéchismes, si elle est affirmée. Pardon. Et à propos du jugement, vous savez que dans le catéchisme, il y a des numéros dans les marges. C'est très intéressant ces numéros. Donc il y a des renvois. Le catéchisme de l'Église catholique est construit de manière organique. Donc on peut le lire de manière linéaire, mais il vaut la peine de le lire aussi en allant chercher les références et en faisant jouer le numéro entre eux. Or justement, ici, on a un renvoi à un passage où il s'agit du sacrement de la réconciliation. Et il est dit la chose suivante. Dans ce sacrement, le pécheur, en se remettant au jugement miséricordieux de Dieu, anticipe d'une certaine façon le jugement auquel il sera soumis à la fin de cette vie terrestre. Alors ça, je le dis moi-même, mais en fait, quand le Seigneur nous pardonne, c'est pardonné maintenant, c'est pardonné aussi pour le jugement dernier, particulier et dernier. Donc c'est une incidence extrêmement forte de recevoir le pardon de Dieu maintenant. Ce que le Seigneur nous a pardonné maintenant, il ne va plus nous le reprocher plus tard. Sinon le pardon de Dieu ne serait pas logique. C'est pas mal. Sixième point, donc le catéchisme parle de purification finale et il affirme que cette purification est tout à fait distincte du sort des damnés. Septième point, l'existence et l'éternité de l'enfer sont affirmées. On peut être surpris, mais donc là c'est très clair. Même s'il souligne aussi que Dieu ne prédestine personne à cela. On l'a vu avec Sainte Thérèse de Lisieux et d'autres manières aussi. Dieu ne le désire pas, au contraire. Alors, petite définition. Et là, on voit comment il y a une compréhension approfondie de la chose. C'est un état d'auto-exclusion, auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux. C'est le numéro 1033. pour s'y retrouver. Alors ici, évidemment, vous voyez que la définition de l'enfer n'a rien de local. On ne parle plus de lieu. C'est un état. Alors, quand je dis pour s'y retrouver, vous comprenez en quel sens je le dis. Il faut une aversion volontaire de Dieu, c'est-à-dire un péché mortel. Je me suis vraiment volontairement séparé de Dieu. Et, il précise, y persister jusqu'à la fin. Le temps de la miséricorde, c'est tant qu'on est ici, tant que je vis. Et donc, cela est un appel à la responsabilité et à la conversion. Et le catéchisme le dit en citant Lumen Gentium. Huitième point, la résurrection de tous les morts précédera le jugement dernier. Jugement qui se fera face au Christ. Et ce jugement sera donc l'occasion d'une révélation. Je cite, vous avez sur vos feuilles, « Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création, de toute l'économie du salut. Et nous comprendrons le chemin admirable par lequel sa providence aura conduit toutes choses vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. » Quelque chose de très beau, c'est qu'on comprendra. On comprendra. Il y a beaucoup de choses qui nous choquent pour l'instant, qui nous interpellent, mais là on va comprendre. Dernier point, l'affirmation très claire du renouvellement de l'univers, appelé les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Quelle est la raison de ce renouveau? C'est la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme. Nous sommes corps et ce n'est pas pour rien. C'est une rénovation que le catéchisme appelle mystérieuse. L'univers visible, dit-il, sera lui aussi transformé. Mais à ce point-là, il n'est pas question de conflagration. Il n'y a pas de feu. Oui. Donc là, on a une évolution. Tiens, en fait, il fallait comprendre, par exemple, il faut comprendre le chapitre 13 de Marc de manière symbolique, métaphorique. J'en viens maintenant à la Commission théologique internationale. Ici, deux documents, l'un paru en 92, l'autre en 2007. Le premier traite de quelques questions actuelles concernant l'eschatologie. Il faut savoir que, à cette époque, beaucoup de livres ont paru et que beaucoup de questions nouvelles ont émergé. Donc les théologiens cherchent, beaucoup de recherches justement ont été faites et les opinions sont proposées, sont émises en tout cas. La commission théologique, son but, c'est de proposer une synthèse des vérités de foi concernant notre futur destinée, consciente justement que le monde contemporain pose de multiples embûches à l'espérance chrétienne. Et donc, il introduit, commence sa réflexion, en rappelant le contexte théologique actuel concernant ces questions. Les difficultés qu'il évoque sont les suivantes, le sécularisme, une vision autonomiste de l'homme et du monde, une certaine pénombre théologique qui ne précise pas beaucoup plus, le matérialisme, un oubli de la mort, un pessimisme, la tendance à affirmer une eschatologie exclusivement intramondaine. Donc la réalisation, et là il y a ici toute la théologie de la libération qui vient. La CTI donc, va proposer une synthèse en 11 points. Dans l'ordre, il s'agit de la résurrection du Christ et de la nôtre, de la parousie du Christ qui est notre résurrection, de la communion avec le Christ aussitôt après la mort, de la réalité de la résurrection dans notre contexte, de l'appel à la résurrection, de la mort chrétienne, de la communion des membres du Christ, de la purification de l'âme, de la question de la réincarnation, de la grandeur du projet divin, et enfin du rapport entre la prière et la foi. Alors, je développe ces points. Par rapport à notre résurrection, qui est le sommet du symbole de la foi, c'est notre raison est l'extension de celle du Christ qui est déjà advenu. Et donc, le Christ, et là on voit qu'il intègre, que la commission intègre les idées de Rainer et Balthazar, est tout à la fois les prémices, le modèle, et par le baptême, la cause de notre résurrection. Donc, il est le principe de notre résurrection. Donc, du teneur raisonnement christologique. Grâce à la résurrection, la communion avec le Christ et avec mon frère sera non seulement spirituelle, mais aussi corporelle. Les documents soulignent, il faut tenir un réalisme de la résurrection. Celui-ci, donc ce réalisme, implique entre le corps actuel et le corps ressuscité, aussi bien une réelle continuité qu'une transformation. Les deux. Et donc il faut vraiment tenir une identité corporelle. Mais, précise la commission, le respect de cette identité ne signifie pas que la même matière soit nécessaire pour que l'on puisse dire que le corps est le même. On dirait peut-être le même atome. Ça, c'est une des choses qui... Le document traite ensuite du moment de la résurrection, c'est la parousie du Christ. Et donc, en parlant de cela, il rejette une idée que certains théologiens avaient émise, selon laquelle la résurrection adviendrait immédiatement dans la mort. On meurt et on ressuscite immédiatement, et donc cette opinion était due à une certaine idée du rapport entre le temps et l'éternité. Et la commission dit, un tel point de vue met à mal le réalisme de la résurrection. Non seulement cela, mais aussi les affirmations bibliques sur la parousie, la compréhension scripturaire du temps et la réalité du corps lui-même qui le soit est temporel. Troisièmement, la commission montre l'affirmation d'une communion avec le Christ pour les justes dès la mort. Et donc, il affirme qu'il y a un état intermédiaire. Il y a vraiment un. C'est une des questions avec laquelle Ratzinger s'était confronté. Il avait débattu. Tout en précisant que même si une communion pour les justes dès la mort, l'espérance suprême, c'est la résurrection des corps. Et donc, la commission a souligné qu'il y a une eschatologie en deux phases. Si elle dit non, il n'y a pas de résurrection immédiatement à la mort n'est pas non plus une mort totale de l'être humain. Où ce ne serait pas seulement le corps qui meurt, mais aussi l'âme. Hein, ce ne serait pas la destruction de l'âme. Certains ont émis l'opinion. Parce que cette idée de destruction totale de l'être humain à la mort conduira à penser à une résurrection immédiate après la mort. Donc, est liée à cela l'idée d'une survie de l'âme après la mort. Et la commission dit, cette idée de survie de l'âme ne provient pas de la... ni l'idée que cette idée de survie de l'âme serait une intoxication de la philosophie grecque qui serait transparue dans la foi. Ce serait ce qu'on appelle un hellénisme. Non, ça vient bien de l'écriture. Le document poursuit et il met en évidence que l'homme est appelé à la résurrection. Et il précise, attention, le corps n'est pas détestable, n'est pas une chose détestable en soi. L'homme est vraiment composé d'une âme et d'un corps. Et il dit, attention, ne tombons pas dans un dualisme, parce qu'il s'agit seulement d'une dualité. Et donc vraiment, après la mort, subsiste un élément spirituel doté de conscience et de volonté, en sorte que subsiste le moi humain, manquant cependant de ce complément qu'est son corps. Et donc cet élément spirituel qui subsiste, on l'appelle l'âme. Donc l'âme assure la continuité entre l'homme qui a vécu sur la terre et celui qui va ressusciter. Cet état de survie, donc, n'est ni définitif, ni ontologiquement suprême. On essaie de montrer justement que, oui, il y a une béatitude, mais il faut encore le corps. Donc, cet état de survie est intermédiaire, transitoire, et ordonné donc à la résurrection. En réalité, l'âme désire retrouver son corps, et le fait qu'elle reçoive son corps nouveau, mais glorieux, sera l'effet de la vision béatifique sur le corps. Donc là, on fait un lien de cause à effet. Parce que l'homme verra Dieu, qu'il retrouvera son corps par cette vision, grâce à cette vision. Après ça, le document va parler, enfin, parle de la mort chrétienne. Et il souligne quelque chose que je trouve assez beau. Il est normal que l'homme en ait une répulsion. Il est normal qu'on n'aime pas la mort. Je pense que c'est important de souligner ça. Parfois on se dit, mais c'est, la mort, c'est pas grave, c'est pas un problème, réjouis-toi. Non. Non, la mort est quelque chose que l'homme déteste, parce qu'en soi, elle est absurde. Dieu n'a pas voulu la mort, donc il est bon de pouvoir pleurer la mort, ou un mort. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, et c'est ce qu'on a retrouvé chez saint Paul, la mort peut acquérir une valeur. Parce qu'elle devient la porte par laquelle on entre de manière définitive dans la communion avec le Seigneur. Et donc, en ce sens-là, on peut désirer la mort, non pas pour être libéré du corps, mais pour demeurer avec le Christ, ce qui est un peu différent. Du coup, il y a une manière chrétienne de vivre la mort qui, lorsque on l'offre au Seigneur, devient une participation à la passion du Christ. Du coup, en tant que chrétien, puisqu'il s'agit surtout de vivre sa mort en étant uni au Christ, l'essentiel c'est de voir venir sa mort, non pas d'y échapper, de pouvoir s'y préparer pour demeurer avec lui. Ça, c'est essentiel. Et alors, suis en paroisse aussi, du coup, n'appelons pas le prêtre quand c'est déjà trop tard. Un jour, on m'a appelé alors que la personne était déjà morte. Mais alors, j'ai fait une prière, évidemment, auprès du corps du défunt. Mais ça aurait été mieux qu'il m'appelle 2-3 jours avant. Et même 2 mois avant que la personne puisse se confesser. Hein, puisque ça anticipe le jugement. Qu'on puisse donner le sacrement des malades, qu'on puisse donner la communion, qu'on appelle viatique. Du coup, la personne est fortifiée pour vivre ses dernières heures avec le Seigneur et passer ainsi tout de suite en Dieu. Alors, dans le 7e chapitre, la CTI aborde la communion des saints et elle précise que la mort ne l'interrompt pas. Cette communion permet justement une communication entre les saints qui se réalise par la prière. Et du coup, la commission va encourager l'invocation des saints et en profite pour distinguer très clairement la chose et l'opposer à l'évocation des esprits. Un peu plus loin, le document reprend son compte l'affirmation de la nécessité après la mort d'être purifié s'il reste encore des souillures ou des taches. Et il précise, cette purification appartient vraiment au stade intermédiaire. Et même va plus loin, dit, ça démontre son existence. Il va expliquer comment un peu ça fonctionne. Dans cet état, la souffrance provient de l'amour. Je cite, « L'amour qui tarde à posséder la personne aimée souffre et par cette souffrance se purifie. » C'est parce qu'on aime qu'on souffre de ne pas être avec la personne aimée. En vertu de la communion des saints, cette purification peut être aidée par la prière et donc il est important de maintenir la pratique de la prière pour les défunts. Donc la commission prend soin de distinguer cet état de purification de l'existence de la condamnation définitive. Le premier, la purification est temporelle et c'est déjà être dans l'amour du Christ. Le second est éternel, il est plutôt mu par la haine, pas par l'amour. Ensuite, la commission va parler de la réincarnation, ce qu'on appelle aussi la métempsychose. Et il va dire, on peut comprendre en fait les raisons qui poussent à croire en la réincarnation. La trop grande brièveté de la vie pour corriger les défaillances et pour réaliser toutes les possibilités de l'homme. Du coup, on comprend, mais oui, il faut plusieurs chances, quoi. Mais ce qui est beau, est-il précisé, c'est que la foi de l'Église prend cela au sérieux et elle y répond. Précisément en disant qu'il y a une purification possible après la mort et que l'état d'achèvement de l'homme, c'est la résurrection. Là, l'homme est complètement accompli. À ce sujet, il est précisé que la théorie de la réincarnation pose difficulté. Il y a plusieurs points qui sont mis à mal et qui fait qu'on ne peut pas la reconnaître. Ça nie d'abord l'unicité de l'existence terrestre. L'Épître aux Hébreux affirme qu'on ne meurt qu'une seule fois. L'état définitif après la mort, la rédemption par le Christ, et puis l'importance des corps, puisque dans l'idée de la réincarnation, à la fin, on espère être libéré du corps, alors que nous espérons le retrouver dans la gloire. Ce qui est beaucoup plus beau, à mon sens. Avant-dernier point, la commission va parler de la grandeur du projet divin et du sérieux de la vie. Ce que Dieu offre, ce n'est pas moins que de participer à l'héritage du Christ. Mais parce que ça repose sur l'amitié, on ne peut pas l'imposer. Donc la possibilité réelle d'accepter le salut implique aussi la possibilité réelle de le refuser. Et donc, la condamnation éternelle. En quoi consiste-t-elle, cette condamnation ? Dans la privation de la vision de Dieu, et on ne parle pas des peines du sang ici, mais de la répercussion éternelle de cette peine dans tout l'être du pécheur. Saint Thomas d'Aquin ne disait pas autre chose. C'est une répercussion de tout l'être, de cette privation de Dieu dans tout l'être de l'homme. Donc l'homme a réellement la capacité de refuser Dieu. Et la commission dit, on se pose vraiment la question. Et elle précise, nous ne comprenons pas comment c'est possible, cela nous choque. Mais cela deviendra intelligible qu'en présence du Christ, qui, à ce moment-là, mettra tout en lumière. Et donc, il s'agit pour nous de prendre notre vie actuelle très au sérieux, parce qu'elle est unique. Alors, heureusement, est-il souligné, l'Église n'a jamais déclaré qu'une personne s'est condamnée. En même temps, il est précisé que cela ne peut pas vouloir dire que le salut est automatique. Mais tout en nuance. Dernier point, la loi de la prière détermine la loi de la foi. lex orandi, lex credendi. Donc, en considérant la liturgie, ce qu'on fera la prochaine fois, on peut dire plusieurs choses. La commission souligne quelques points. 1. Le Christ est le principe même et la réalité déterminante de l'eschatologie. Ça, c'était déjà clair. 2. Découle de cela l'affirmation de la résurrection du corps, de son non-accomplissement pour l'heure et de sa réalisation à la fin des temps. Dérive encore de cela l'affirmation d'une rétribution des âmes immédiatement après la mort et la possibilité d'une purification après la mort. L'âme attend cependant la résurrection des morts, comprise de manière en fait tout à fait réaliste. Et donc, il est souligné que la liturgie maintient l'équilibre qui doit exister entre, dans l'eschatologie, donc entre les éléments individuels et les éléments collectifs, qu'elle souligne le sens christologique des réalités ultimes, sans lesquelles, évidemment, tout part en spéculation. Donc, on voit comment le document de la CPI répond vraiment à des questions actuelles brûlantes, en tout cas pour l'époque, et qu'il opère un discernement précieux. Deuxième document, beaucoup plus récent, celui sur l'espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême. Alors, on pourrait se dire, mais enfin, pourquoi est-ce que la commission revient avec un tel sujet? Il me semblait que les choses étaient claires. Quand on approfondit cette question, on se dit, mais en fait, ce n'est pas si simple que cela. Et donc, il était bon qu'on arrive à une réflexion un peu là-dessus, qu'on mette un peu les choses à plat et qu'on réfléchisse. En fait, la chose est assez complexe, parce qu'il faut conjuguer plusieurs éléments. Et c'est là tout l'art. Le premier, c'est la volonté salvifique universelle de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il le veut plus que nous. Le don de ce salut par Jésus, qui est unique médiateur. La nécessité du baptême, par lequel le Christ sauve, et la réalité du péché originel. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller au cours du soir du semestre prochain. Alors, pour traiter de la question, le document va travailler en trois étapes. La première, il va faire mémoire de l'histoire de la réflexion théologique et opérer une certaine herméneutique. Deuxième étape, il va énoncer des principes théologiques en jeu. Et troisième, il va mettre en relief les motifs de l'espérance chrétienne à propos de ses enfants. Alors, je ne vais pas tout reprendre, je reprends quelques lignes de force. À propos de l'histoire, il souligne surtout la place, enfin, notamment la place de Saint-Augustin. Saint-Augustin a affirmé, contre Pélage, la nécessité du baptême. Pourquoi le faisait-il ? Eh bien, c'est simple, Pélage niait le péché originel et la nécessité du baptême pour des enfants qui n'ont pas encore pu commettre un péché personnel. Du coup, le baptême devient accessoire. Augustin réaffirme profondément l'importance de ce baptême. Il dit, non, il est vraiment nécessaire aussi pour tous les hommes, enfants comme adultes. Et donc, par conséquence, dans sa réflexion théologique, il est conduit à dire que les enfants morts sans baptême sont destinés à l'enfer, où ils subissent une peine très douce, la manière dont il arrive un peu à atténuer la chose. Alors, on est interloqué, mais on voit la force quand même du raisonnement d'Augustin. C'est pas comme s'il avait envie de condamner quelqu'un. Donc, Augustin, dit la commission, a une interprétation restrictive de la volonté salvifique universelle de Dieu. Comme on le sait, la pensée d'Augustin a été très importante. Son influence a été absolument énorme en Occident. Et du coup, c'était une question pour le Moyen-Âge, de savoir comment est-ce que je vais assumer cette pensée. Parce qu'ils se posaient les mêmes questions que nous, pour finir. Alors certains au Moyen-Âge en sont venus à dire que ces enfants ne sont privés que de la vision béatifique. Et selon ces premiers penseurs, ces petits ne subiraient aucune autre peine. D'autres théologiens ont pensé que ces enfants ne seraient pas en enfer, mais qu'ils obtiendraient une félicité naturelle, qui ne serait privée en fait que de la béatitude surnaturelle. Mais ça pose une question, parce qu'on distingue deux buts dans la vie humaine. Est-ce que Dieu, oui ou non, est-il le seul but de l'homme, le seul bonheur de l'homme? Et donc, il ne serait privé que du bonheur surnaturel, mais sans en souffrir. Vous voyez comment on cherche. D'autres encore, donc en ce sens, sont venus à parler des limbes, qui définissent comme le lieu où ces enfants se trouveraient. Alors, comme le document le souligne, c'est important de comprendre le but de ces réflexions qui peuvent nous sembler un peu surprenantes, ou carrément surprenantes. Mais en réalité, dit le document, c'est une tentative pour rendre compte de la justice de Dieu et de sa miséricorde envers les enfants qui n'ont commis aucune faute actuelle, accordant ainsi plus de poids à la miséricorde de Dieu que ce qu'Augustin faisait. Ils vont déjà plus loin qu'Augustin. Et c'est vraiment important de comprendre comment cette idée des limbes, ou de ce qui va dans ce sens-là, est déjà un essai de dire non, ça ne peut pas être comme ça, tel qu'Augustin l'a défini, il faut chercher davantage. Par la suite, différents papes ont défendu le droit de parler des limbes, mais ils se sont refusés de canoniser cette opinion théologique. Vous pouvez discuter, en gros, allez-y, discutez, réfléchissez, mais on ne dit pas que c'est ça. En même temps, vous ne pouvez pas condamner ceux qui réfléchissent. Et donc, les papes, en faisant cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont préservé la liberté de parole en théologie. Quand même très important pour voir plus clair. Le XXe siècle, donc, c'est aussi attelé à la tâche. Et là, on a essayé de trouver des nouvelles solutions. Alors, la CTI note une chose amusante, c'est que certains avaient mis à l'ordre du jour du Concile Vatican II le fait de parler des langues. Et les pères du Concile ont refusé cela. Non, 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 ça ne va pas venir dans l'agenda. Donc ils n'ont même pas discuté parce qu'ils ont dit tout de suite, on ne veut pas en parler. On ne veut pas canoniser cela. Et donc, à savoir précisément que ces enfants seraient privés de la vision béatifique. Grande sagesse des pères évêques à l'époque. La réflexion théologique, de son côté, a souligné que, à côté du baptême sacramentel, l'Église reconnaissait un baptême de sang et un autre de désir. Donc certains se sont demandé si on ne pouvait pas appliquer cela aux enfants. La difficulté étant la suivante, c'est que ces enfants ne peuvent pas poser un acte comme un adulte. D'où on est un peu bloqué dans la réflexion. Le document va rappeler aussi l'intervention de Pie XII. Dieu appelle tous les hommes à la vision béatifique. Donc il n'y a pas un bonheur surnaturel et un bonheur naturel. Non, il n'y a qu'un seul but, c'est la vision béatifique. Mais s'il y a bien cela, cela ne signifie pas pour autant que l'octroi de la grâce est automatique. La commission souligne encore que Vatican II a affirmé de manière très forte la volonté salvifique universelle, une chose. Deuxième chose, le salut par le Christ. Et troisième chose, la possibilité à tous, offerte par l'Esprit Saint, d'être associés au mystère pascal. Là, c'est très important. Tout homme peut être de manière mystérieuse que Dieu se connaît être associé au mystère pascal, c'est-à-dire au Christ qui me sauve. Et donc pour terminer cette partie historique, la commission retient trois principes. La volonté salvifique universelle de Dieu, le salut donné par le baptême sacramentel ou non, et la nécessité d'être libéré du péché originel. Et alors il termine en disant, attention, dans l'Église, il y a différents types d'affirmations, il faut bien voir où se situe, à quel niveau se situe l'affirmation. Deuxième partie du document, c'est chercher à discerner les voies de Dieu en appliquant le principe de la hiérarchie des vérités de la doctrine catholique. Et la commission explique cet ordre. Le salut ne vient que de Dieu le Père, par Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. Cette vérité fondamentale se déploie dans l'histoire à travers la médiation de l'Église et son ministère sacramentel. Donc en premier, nous avons la volonté salvifique de Dieu qui est universelle, par l'unique médiation du Christ dans l'Esprit Saint. Donc, il faut vraiment tenir les trois choses. Parfois, on a l'impression que ça s'oppose. Ensuite, le texte va rappeler l'universalité du péché. Donc, c'est après. Le besoin universel du salut. Et plus loin encore, la nécessité de l'Église pour le salut. Alors, évidemment, ici, il faut faire attention à ce qu'on comprend comme Église. Par l'Église. Parce que si je réduis l'Église à ce qui est visible, on va être coincé. Et il est précisé que l'Église, à la suite d'ailleurs du Concile, que l'Église est à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, le sacrement universel du salut. Et il est précisé, ce salut est accessible en vertu d'une grâce qui a une relation mystérieuse avec l'Église. Et puis, on va parler du baptême, en disant, le baptême sacramentel est nécessaire, mais pas de l'ordre d'une nécessité absolue. Il existe donc aussi les baptêmes de sang et de désir. Dieu n'est pas limité au sacrement dans les dispensations du salut. Et enfin, le document rappelle l'espérance et la prière de l'Église pour le salut universel. C'est quand même toujours pour cela qu'on prie. Voilà les principes qui sont mis en relief. La dernière partie, donc, comme je disais, avoir les raisons d'espérer. Et on va essayer d'articuler l'ensemble en fonction du contexte actuel. Donc, quelques réflexions. Premièrement, mais Dieu est miséricordieux. Et il ne refuse pas sa grâce à ceux qui, sans faute de leur part, ne sont pas parvenus à une connaissance explicite du salut. Et donc, quelques questions. Si la faute du péché originel contracté sans consentement est remise lors du baptême des petits-enfants sans leur consentement, si ce n'est celui des parents, ne se pourrait-il pas que Dieu puisse associer les enfants morts sans baptême au mystère pascal sans leur consentement? Question. Si ces enfants souffrent et meurent, s'ils sont victimes de la violence, ne sont-ils pas conformé en cela au Christ souffrant ou aux saints innocents? Et si on dit que les saints innocents sont déjà sauvés parce qu'ils sont martyrs à cause du Christ, mais d'une certaine manière avant le Christ, sans qu'ils aient exercé un acte de liberté, ne peut-on pas dire la même chose des enfants morts sans baptême, en raison d'une violence ici, parce qu'ils participent à sa passion? Ou encore, ces enfants ne pourraient-ils pas être sauvés de manière analogue à Marie, qui a reçu dès sa conception la grâce rédemptrice sans baptême? Voilà des questions. Un autre principe que la commission a développé, c'est la solidarité des hommes avec le Christ. Et il dit, attention, il y a une solidarité des hommes avec Adam, dû au péché originel, mais la solidarité avec le Christ est plus profonde. Et elle est plus fondamentale. Et donc, l'absence du libre arbitre ou du choix de la part des enfants décédés avant baptême, est-ce que cette absence de choix ne pourrait être de liberté ne pourrait pas être suppléée par l'Église, par le désir des parents? L'Église prie pour elle, pour eux. Troisième manière de voir les choses, c'est les liens de communion de l'Église et sa solidarité avec toute l'humanité sont exprimés dans la prière. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la prière de l'Église lors d'un baptême, d'un enfant est donnée alors que l'enfant lui-même ne peut pas exercer sa liberté. Hein, c'est, dans le baptême, ce sont les parents qui font la profession de foi pour l'enfant. Donc si un enfant est incapable d'exprimer son désir, de nouveau, est-ce que l'Église ne peut pas intercéder et exprimer le désir de baptême pour lui? Dernier argument, qui n'est pas sans valeur, c'est qu'il existe maintenant, dans le rituel des funérailles, des prières spéciales pour les enfants qui sont morts sans baptême. Et donc là, l'Église exprime son acte d'espérance. Or, la loi de la prière est la loi de la foi. Donc, la commission conclut, après toutes ces réflexions, il y a des multiples éléments qui donnent des fondements théologiques et liturgiques solides pour espérer, est-il dit, que les enfants qui meurent sans baptême seront sauvés et qu'ils jouiront de la vision béatifique. Et alors, il souligne de manière un peu étonnante que ce sont des raisons d'espérer, mais ce n'est pas une connaissance certaine. Et là, je suis Jean-Marie Hénaud, qui, dans un article de l'ANRT, dit ceci, mais l'espérance, l'acte de l'espérance, dit une certitude. Et donc, en fait, la commission freine, mais selon Jean-Marie Hénaud, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, on peut aller plus loin, il dit non, la commission a montré que c'était le cas, et que donc, il n'y a pas de... On peut avoir la certitude, justement, fondée sur l'acte d'espérance de l'Église. Parce que l'acte d'espérance est un acte qui manifeste la foi, sa certitude, sous le mode, justement, de l'espérance théologale. Alors, j'ai bien dépassé. Il reste encore Spes Albi. Trois choses, je vais aller un peu plus vite. Vous avez des belles citations. Benoît XVI réfléchit à la vie éternelle, au jugement, et enfin à l'état intermédiaire entre la mort et le retour du Christ. Alors, dans une analyse très très fine sur la vie éternelle, il dit, mais en fait, la vie éternelle, aujourd'hui, on n'en a plus envie. Parce que si on imagine la vie sur le mode de ce qu'on vit actuellement, et puis on se dit, si c'est toujours comme ça, si c'est toujours avec l'autre souffrance qu'on a, ben non, merci. Et donc la vie éternelle, surtout pas en fait. Et Benoît XVI dit, non, mais la vie éternelle, il faut la comprendre autrement. Il faut comprendre la vie éternelle sur tout les aspirations les plus fortes qu'il y a en nous. C'est ça, la vie éternelle. Et vous avez dans la citation que j'ai donnée, bien, comment il comprend cela, je ne vous le dis pas. Le deuxième point, c'est le jugement. Alors le jugement, dit Benoît XVI, ça c'est aussi très beau. On peut l'espérer, souvent on le craint, mais en fait, on l'espère. Pourquoi? Parce que c'est l'établissement de la justice. Sinon, on pourrait se dire, sinon Marx pourrait avoir raison, c'est l'opium du peuple en fait. On attend une justice qui n'arrivera jamais. Non, il y aura une justice. Le jugement sera l'établissement de la justice. Et le mal aura une fin. Et ça, c'est heureux. Et donc, on peut vraiment espérer ce jugement, non, pas seulement le craindre, vraiment l'espérer. Donc, Benoît XVI opère une purification, l'idée du jugement qui est assez belle. Troisième thème, c'est la condition intermédiaire, donc entre la mort et la résurrection. Et Benoît XVI commente la parabole du riche et du pauvre Lazare. Et il voit là l'affirmation de cet état intermédiaire. Et alors, il dit, mais là, je vais quand même vous lire. Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elle le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. Des personnes en qui tout est devenu mensonge, des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. Ces personnes-là, quand elles meurent, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Ils sont séparés de l'amour. D'autres peuvent s'être laissés totalement pénétrer par Dieu. Être donc totalement ouverte au prochain. Et cela correspond au ciel. Et puis il dit, d'autres, et c'est selon lui le cas de la plupart, sont restées ouvertes à la vérité de l'amour, et à l'amour, pardon, à Dieu, mais se sont compromises avec le mal. Et donc le pape va reprendre cela, donc il y a besoin d'une purification, parce qu'on n'est pas tout à fait ajusté à cela. C'est la citation que vous avez. Et dans ces citations, en fait, on retrouve la pensée de Catherine de Gênes, de Marie l'Incarnation et Thérèse de Lisieux sur le purgatoire, justement. C'est une chance. Parce que comme il n'y a pas encore cette adaptation complète à l'amour, eh bien, le temps est donné pour pouvoir s'y adapter complètement. Le pape précise quand même, attention, il ne faut pas calculer le temps. Pas calculer la durée de ce temps-là. Par contre, il s'agit d'aider ceux qui y sont et venir en aide aux autres, se demander comment les aider, c'est le meilleur moyen pour faire le maximum pour son propre salut. Je termine peut-être avec une petite histoire, une petite blague. Je suis désolé, j'ai beaucoup dépassé le temps. C'est le ciel et l'enfer, c'est la même chose, sauf que au ciel, au banquet du ciel, on a des grandes cuillères. Donc des cuillères d'un mètre et demi. Et donc l'enfer, c'est ceux qui veulent se donner manger à eux-mêmes. Au ciel, on donne manger à l'autre. C'est vraiment dans la réception, et tout se comprend à partir de là. Voilà. Merci, désolé d'avoir bien dépassé l'heure.